Cet épisode a été réalisé grâce au soutien institutionnel des laboratoires Pfizer. L'Association française d'urologie vous présente Podcast AFU, le podcast médical de l'AFU. BCG réfractaire. Docteur Priscilla Léon, chirurgien urologue à la clinique Pasteur de Royan, nous fait part de son expertise. L'intervenante n'a pas reçu de financement. Pour les patients ayant une tumeur de vessie non infiltrant le muscle réfractaire au BCG, quelles sont les options thérapeutiques ?
Les tumeurs de vessie non infiltrant le muscle réfractaire au BCG constituent un problème majeur de prise en charge. Compte tenu de leur pronostic défavorable, avec un risque de progression vers l'infiltration de l'ordre de 45% à 5 ans. La cystectomie reste le traitement de référence dans cette situation. Malheureusement, l'âge et les comorbidités des patients pris en charge ne permettent pas toujours d'envisager une cystectomie. Il n'y a alors que peu d'alternatives actuellement disponibles. Les différentes options sont, par exemple, le traitement trimodal, qui nécessite une compliance importante du patient dans le but d'épargner la vessie, de préserver la qualité de vie, sans compromettre les résultats carcinologiques. Pour cela, il faudra une résection transurétrale de vessie maximaliste, associée à une radiothérapie de la vessie et des aires ganglionnaires, et une chimiothérapie va potentialiser l'effet de la radiothérapie. Les bonnes indications sont les tumeurs de faible volume de moins de 3 cm resséquées intégralement, unifocales, T2 au maximum, sans carcinome in situ, associé et sans dilatation urétéro-piélocalicielle. La survie spécifique à 5 ans après traitement trimodal est de 50 à 82%. Le taux de cystectomie de rattrapage de 10 à 30%. Le taux de complication semble similaire à la cystectomie radicale d'emblée. La plupart des récidives après traitement trimodaux se font sur la mode non infiltrant et peuvent être traitées de façon conservatrice. Une autre option est la thermochimiothérapie, qui est déjà développée dans un podcast spécifique, qui est un concept innovant qui consiste à associer l'effet de l'hyperthermie intravésicale à celle de la chimiothérapie par mitomycine. L'objectif étant d'augmenter la perméabilité cellulaire et donc de permettre une meilleure diffusion du produit au sein des cellules urothéliales et donc de potentialiser l'efficacité de la mitomycine. Il existe également la photothérapie dynamique, l'immunothérapie avec le pembrolizumab et l'atezolumab, et il existe de nouvelles thérapies. Le nadopharyngène firadenovec, une thérapie à médiation génique avec l'interféron, des virus type adénovirus oncolytique, dont l'activité oncolytique est dirigée contre des cellules tumorales. Ce virus est actuellement en essai multicentrique de phase 3 avec un taux de réponse complète de 48% avec une durée médiane de réponse complète de 12,4 mois. Il y a également BC819 qui est un plasmide à ADN recombinant administré dans la vessie. Il a été conçu pour produire uniquement la toxine diphtérique bactérienne dans les tissus cancéreux de la vessie. Nous avons également les superagonistes N803 associés au BCG en intravésical et enfin les chimiothérapies endovésicales telles les anthracyclines ou la gemcitabine. La gemcitabine n'a toutefois pas d'AMM en France. Dans cette indication, nous n'en parlerons donc pas ici.
Qu'est-ce que la photothérapie dynamique ?
L'objectif de la photothérapie dynamique est d'obtenir la mort des cellules tumorales grâce à leur sensibilisation photochimique. Le taux de réponse complète à 3 mois est globalement évalué entre 57 et 100% suivant les séries. Il existe plusieurs types de photosensibilisateurs. La Photofrin 2 est la plus utilisée. Le patient va la recevoir en intraveineux. Celle-ci va pénétrer dans les tissus à croissance rapide, comme les tumeurs malignes et les cellules inflammatoires. Après 22 heures après son injection, la Photofrin 2 se fixe dans les tissus tumoraux et est activée par une lumière rouge. Le traitement endovésical est appliqué 2 à 3 jours après l'injection. La lumière est introduite dans la vessie par l'intermédiaire d'un cystoscope souple ou rigide. Deux techniques de traitement sont possibles, soit la microfibre, où le traitement focal s'applique directement sur des tumeurs de moins de 2 cm de diamètre, soit par une fibre à terminaison sphérique. L'extrémité de la fibre sera alors placée au centre de la vessie et on pourra traiter l'ensemble de la muqueuse vésicale. Cela est surtout utilisé pour les carcinomes in situ. Bien sûr, il faut appliquer ce traitement avec un délai d'au moins 4 semaines après la résection endoscopique de la tumeur afin de minimiser le risque de réaction inflammatoire de la vessie. La destruction tumorale est provoquée par la production de radicaux libres qui sont cytotoxiques. Il peut se produire aussi une destruction indirecte de la tumeur provoquée par des lésions de son endothélium vasculaire, ce qui conduit à l'hypoxie puis à la mort cellulaire. Le troisième mécanisme possible est une immunosuppression cytotoxique. Ce traitement peut entraîner des complications locales, une irritation vésicale plus ou moins importante et très fréquente, la survenue d'une fistule recto-vésicale, des dépôts cristallins dans la vessie, une phototoxicité cutanée. La complication la plus grave est la rétraction vésicale définitive.
Qu'est-ce que l'étude KEYNOTE 057 sur le pembrolizumab ?
Il s'agit d'une étude de phase 2 évaluant l'efficacité et la sécurité du pembrolizumab seul chez des patients ayant un cancer de vessie non invasif à haut risque et ne répondant pas au traitement par BCG. Le pembrolizumab est un anticorps monoclonal qui bloque le mécanisme de protection des cellules cancéreuses et permet ainsi au système immunitaire de les détruire. Il cible le récepteur programmé de mort cellulaire des lymphocytes. Une régulation à la hausse de la voie PD-1 a été observée dans les tumeurs de vessie non infiltrant le muscle résistant au BCG. Dans cette étude, les patients ont reçu 200 mg de pembrolizumab toutes les 3 semaines pendant 2 ans ou jusqu'à récidive, progression ou toxicité inacceptable. Dans ce suivi de 3 ans des résultats, 96 patients ont été inclus dans l'analyse d'efficacité. La durée médiane de suivi était de 36,4 mois. Au total, 39 patients avaient une réponse complète à 1 an. 33% sont restés répondeurs complets pendant plus de 18 mois et 23% pendant plus de 24 mois. 40 patients ont subi une cystectomie radicale après l'arrêt du pembrolizumab. Parmi ces 40 patients, 35 n'avaient pas de surclassement pathologique, d'upstaging, vers une maladie invasive musculaire. Des événements indésirables liés au traitement sont survenus chez 66% des patients. Les événements indésirables les plus fréquents étaient la diarrhée, la fatigue et le prurite, 11% à peu près pour chacun. Bien que 7% des patients aient interrompu le traitement en raison d'événements indésirables liés au traitement, il n'y a eu aucun événement de grade 5.
Encore en cours d'étude, certaines thérapies génies ou superagonistes se développent. Pouvez-vous nous en parler ?
Sans pouvoir parler de tout dans ce podcast, je vais en citer deux. Le nadopharyngène firadenovec, qui est une nouvelle thérapie à médiation génique qui confère le gène de l'interféron A2B humain à l'urothélium de la vessie après instillation intravésicale et qui entraîne une expression prolongée et localisée de l'interféron A2B. Il y a actuellement un essai multicentrique ouvert de phase 3 pour les tumeurs de vessie non infiltrant le muscle insensible au BCG. Le nadopharyngène a été administré une fois tous les 3 mois pendant 1 heure, jusqu'à 4 doses. Le protocole imposait une biopsie sur 5 sites à 1 an. Tous les patients avec une absence de récidive de la maladie de haut grade à 1 an se sont vus proposer un traitement continu une fois tous les 3 mois d'entretien. Le nadopharyngène firadenovec a été bien toléré et démontre la durabilité de la réponse à 24 mois. Enfin, il y a le superagoniste N803, qui est un anticorps superagoniste du récepteur à l'interleukine 15 en intravésical. L'interaction du N803 avec le récepteur à l'interleukine 15 active les cellules natural killer et les CD8. Pas d'action sur les lymphocytes T-régulateurs, ce qui a pour conséquence d'avoir moins d'effets induits et moins d'inhibition pour les T-régulateurs. Il y a actuellement une étude de phase 2-3 avec des patients ayant un carcinome in situ non répondeur au BCG. 80 patients sont inclus. Ils ont reçu 50 mg de BCG associés à 400 microgrammes de N803 en hebdomadaire en intravésical à 6 reprises pour le traitement d'induction, puis réinduction isolée x3 et entretien. 71% de réponse complète après un suivi médian de 19,2 mois. Il n'y a pas eu d'effet indésirable immunitaire systémique, pas d'arrêt de traitement lié à un effet indésirable et pas d'effet indésirable de grade 5. De nombreux traitements sont donc en train d'émerger et d'être étudiés. De nouvelles solutions vont pouvoir être apportées aux patients ayant une tumeur de vessie non infiltrant le muscle, réfractaire au BCG et non éligible à une cystectomie.
C'était Podcast Affût. Retrouvez tous nos épisodes sur le site eurofrance.org.